Alors, Jeffrey Dyson, vous mettez en scène Honor, un texte que vous avez co-traduit avec Madame Monod. Voilà, vous nous préciserez la chose. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce texte de cette autrice australienne?
C'est comme toujours, c'est des coups de cœur. Moi, j'ai lu ça juste après la création en 96. Et puis, moi, j'étais époustouflé qu'on puisse écrire une pièce d'une telle richesse et d'une telle subtilité sur un thème qui est tellement bateau, qui est tellement cliché, où on dit mais c'est impossible de créer des personnages qui vivent des choses vraies, et puis elle y parvient avec une telle aisance et une telle intelligence que ça m'a juste embarqué, emballé quand j'ai lu la première fois, et puis je continue d'être persuadé par l'écriture et puis la qualité de l'écriture chaque fois que je le vois.
Alors justement, qu'est-ce qui pour vous distinguerait cette écriture de celle, par exemple, de grands spécialistes du délitement de la vie de couple que sont, on pourrait citer ici Pinter, Albi notamment, David Lodge aussi. Qu'est-ce qui pour vous fait la singularité de cette écriture avec notamment un certain nombre d'ellipses et puis des tableaux successifs justement, parce que c'est une écriture un petit peu sur un canevas fragmenté avec ce huis clos et trois rôles de femmes, presque de trois générations différentes aussi.
Oui, ben je crois que vous avez parlé d'ellipses. Il y a des ellipses presque dans chaque réplique. Et je crois que ça provoque le spectateur à avoir une activité mentale et une fébrilité qui est vachement excitant pour les spectateurs, parce qu'on est constamment en train de recoller les morceaux parce que tous les personnages sont constamment en train de chercher le bon mot, de ne pas finir les phrases, même si ce sont des intellectuels, ils sont incapables de commencer une phrase et de la finir parce qu'il y a toujours une bousculade d'idées qui leur vient à la tête, et puis ils ont toujours une meilleure idée qui leur vient avant de finir la phrase. Donc c'était cette espèce d'excitation mentale qui est passionnant, quoi, qui me semble c'est à la fois moins construit et plus construit que les autres que vous avez cités.
Alors justement, Claudia, qui est donc cette jeune journaliste qui tombe amoureuse, quoi, qu'il faudrait qu'on s'entende sur ce terme la concernant, de cet auteur que vous appelez Georges, ici, qui a la cinquantaine, parle également, elle, de jubilation. Alors qu'est-ce qu'il en est justement par rapport à cette impuissance des mots qui est affirmée, je crois, à plusieurs reprises? Il y a notamment l'épouse Éléonore qui dit « nous avons les mots, mais peut-être pas la réalité qui va avec », ou c'est peut-être en substance ce qu'elle dit, y compris d'ailleurs dans une scénographie qui redouble la chose, puisque vous l'affirmez avec une espèce de convention de conversation play, ces canapés, ces fauteuils, effectivement, mais qui sont tissés eux-mêmes de couvertures de livres. Mm-hmm. Alors, sur l'impuissance des mots, justement, à dire ou à cerner, en fait, une vie, puisque cette pièce, on veut le rappeler, s'ouvre justement sur un entretien, et tout est beaucoup commerce, d'ailleurs, de mots et d'écriture.
Oui, ben c'est effectivement un conversation piece. Il n'y a que des mots, il n'y a aucune action dans la pièce, et puis a priori je déteste le théâtre qui n'est que parler, et puis là tout d'un coup je suis tombé amoureux de cette pièce parce que ça excite mon intelligence et de se retrouver solidaire avec tous les personnages qui sont à la recherche du mot juste pour expliquer l'état dans lequel ils se trouvent et pourquoi qu'est-ce qui les motive et d'expliquer pourquoi ils font ce qu'ils font.
Alors je crois que justement dans cette motivation, dans cette manière aussi peut-être chez le personnage d'Éléonore de disséquer les autres, de se disséquer soi-même, il y a naturellement un aspect d'anamnèse peut-être thérapeutique, mais en même temps certains critiques ont ramené son écriture, même si c'est ses modalités propres, à celle par exemple d'un Pirandello, à chacun sa vérité, parce qu'on a vraiment quatre versions d'une même histoire ici.
Oui, bien sûr, c'est ça qui est aussi une qualité de la pièce que j'ai adorée, c'était qu'il y a tort, mais il y a raison chez personne. Je veux dire, tout le monde vit la chose parce qu'il a besoin de le vivre, et puis il n'y a aucun jugement. On pourrait s'attendre à ce que ce soit une pièce féministe et puis que le mec soit le méchant parce qu'il trompe sa femme, mais pas du tout. Il est aussi bien défendu que les filles, et puis je trouve que c'est tout à fait admirable.
Alors je crois que la séquence, la scène qui est la plus longue dans la pièce, c'est une impression tout à fait subjective au sortir de celle-ci, c'est effectivement la scène de la rupture, c'est-à-dire lorsque je crois, donc Georges annonce à Éléonore cette rupture sans en trouver les mots, on retrouve justement sur cette béance, c'est-à-dire cette peine peut-être à se justifier ou à exister en dehors de la reconnaissance que l'autre avait pour vous et qui vous faisait vivre d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'il en est peut-être dans cette scène qui n'est pas nécessairement une scène axiomatique, mais comment est-ce que vous l'avez abordée, justement cette scène de rupture entre Éléonore et Georges? Parce qu'elle est loin des clichés que j'avais vus dans une autre mise en scène, c'est-à-dire que c'est pas du tout une femme effondrée, c'est une femme qui est peut-être hébétée, mais qui a en même temps beaucoup de rage en elle.
Écoutez, quand j'attaque une pièce et quand j'attaque la mise en scène, si je suis convaincu par l'écriture, j'essaie de le respecter totalement. Et là, nous avons cherché à le respecter simplement. Et puis chaque pause, chaque temps implique un changement d'idée et chez les deux acteurs. Et puis en respectant au virgule près le texte, on est arrivé au résultat que vous avez vu. Mais c'est simplement, le seul but, c'était de... Tout le monde, ce qui était fascinant, c'était que tous les acteurs et moi-même et toute l'équipe étaient, dès la première lecture, mais absolument convaincus de la sagesse de l'écriture, de sa justesse. Et donc, dans ces cas-là, on ne peut que faire confiance, parce qu'on sait que l'auteur sait mieux. Sinon, à un moment donné, on peut être paumé ou ne pas savoir se trouver dans une impasse. Si on se fait confiance à ce qu'on nous propose et qu'on continue à chercher pourquoi c'est écrit comme ça, on est toujours arrivé à des solutions qui nous ont satisfaits. Et c'est dans la pièce dont vous, dans la scène dont vous parlez de la rupture, c'est exactement ça qu'on a fait. C'est écrit avec une telle précision qu'on a cherché qu'elle respectait, et c'est ça qui nous a donné le résultat que vous avez vu ce soir.
Alors, cette musicalité de l'écriture, elle implique aussi que les personnes qui ne parlent pas, qui ne sont pas actantes pendant une scène, restent néanmoins présentes sur le pourtour de ce plateau.
Ça, c'est un choix de mise en scène. En fait, c'est tout bête. Ce qui s'est passé, c'est que on a répété avec tout le monde présent. Et puis il y avait une dynamique qui commençait à se construire, et puis on est arrivé dans le théâtre, et puis on a continué à faire des filages avec les acteurs autour, et puis tout d'un coup la première arrivant, on décide de faire pour de vrai, et puis ceux qui n'étaient pas sur scène allaient en loge, et puis tout d'un coup tout est tombé, la dynamique de la pièce a disparu. Et puis après deux filages comme ça, tout le monde s'est rendu compte qu'il fallait, pour retrouver la dynamique qu'on adorait, qu'on sentait grandir, et puis tout d'un coup a disparu pendant deux jours, le simple fait que les acteurs qui n'étaient pas concernés par les scènes, où ils n'étaient pas, qui se trouvent aussi sur scène, a redonné la dynamique qu'on cherchait. Et puis à partir de là... on a retrouvé notre rythme de croisière.
Alors il y a souvent des fondus au noir, effectivement, entre ces scènes, avec un éclairage et des parts qui peuvent rappeler de manière nettement moins violente ce que vous aviez utilisé notamment pour Qu'est-ce qui cloche chez elle, où là c'était une véritable paroi lumineuse très éclatante derrière. Mais en même temps, il y a une scène qui vient vers la fin où justement la jeune Claudia, interprétée par Sybille Blanc, pleure parce qu'elle a envie de trouver les mots de cette poétesse Éléonore. Et à ce moment-là, je crois que c'est le seul moment où quasiment vous gardez un personnage illuminé d'une scène à l'autre.
Oui.
Pourquoi ce choix, en fait?
C'est pas la seule fois. Il y a aussi une autre fois avec Éléonore où elle est... C'est simplement des choix de pragmatisme. Quand on a trouvé qu'il s'était organique, que le personnage qui passe d'une scène à une autre... n'ait pas besoin de se déplacer entre les deux scènes, on a défendu cette option-là en éclairant pendant le changement. Chaque fois où le personnage passe d'une scène à l'autre, il ne change pas de position d'une scène à l'autre, entre la fin de la première et le début de la deuxième, on l'a éclairé pendant le noir.
Alors, pour revenir un petit peu aux thématiques de l'auteur, c'est vrai que quand on pense à cette pièce qui a été écrite en 1996, que vous avez immédiatement traduite avec Madame Monod, et quand on prend là, une pièce qu'elle a écrite en 2002, Raptures, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de la perte et du manque. Hein. Dans Raptures, ce sont plusieurs amis qui se retrouvent après un incendie, je crois, où ils ont tout perdu. Ici, il y a aussi de l'ordre, pas nécessairement de la frustration, mais qu'est-ce que c'est perdre, qu'est-ce que c'est organiser une autre vie, qu'est-ce que c'est avoir des manques, est-ce que ça vous a touché aussi dans la pièce ou pour vous la thématique est ailleurs en fait?
Oui, la thématique est ailleurs, je crois. C'est la question, qu'est-ce que c'est que l'amour, est-ce que la passion fait partie de l'amour, et puis tous les enjeux de qu'est-ce que c'est que la loyauté, et puis quand est-ce qu'on peut être loyal et passionné, toutes ces problématiques qui sont constantes, même chez des gens qui n'ont pas d'aller voir ailleurs, mais je veux dire tout le monde est assalé par les problématiques de l'amour, de la loyauté, comment vivre en couple, comment ne pas vivre en couple. Et puis là, on a une pièce qui dissèque tout un parcours de quatre personnages qui sont concernés. Et puis c'est très révélateur. Et puis ça donne de l'espoir. Ça donne de l'espoir parce qu'ils ont raison.
Alors justement, chacun a raison. Il y a peut-être aussi une envie d'être à la place de l'autre d'une certaine manière, et chez les uns et chez les autres. Je prends notamment le rôle de la fille qui intervient relativement tardivement, c'est une impression très très subjective, qui est peut-être le personnage le plus dessiné, je dirais même le plus, sans faire trop de références, mais le plus horovitzien de la pièce, c'est-à-dire c'est un personnage qui dit voilà, on m'a enlevé en fait ses parents d'une certaine manière, j'ai justement un manque, une perte, et je ne me suis construit qu'au travers d'eux et par eux d'une certaine manière aussi. On retrouve le cas de Eleanor et de son mari, où elle a fait aussi beaucoup abstraction d'elle-même pour pouvoir mettre ses pas dans les pas de cet homme qu'elle admirait. Alors qu'est-ce qu'il en est de cette fille justement qui va même jusqu'à vouloir développer une complicité avec celle que Eleanor appelle une prédatrice, c'est-à-dire Claudia?
Oui, c'est même plus qu'un rapport. Elle cherche presque une mère de substitution auprès de la mort de son père. Donc c'est assez tordu comme histoire, mais devant l'abandon que, je sais pas, moi j'ai pas vécu ça personnellement, mais d'après ce que m'en raconte, souvent les enfants adultes de couples qui se séparent le vivent très très mal, et ils sont très très fâchés, très en colère contre leurs parents de s'être séparés. Et puis voilà, en tout cas dans la pièce, on a une petite preuve.
Alors, juste une chose encore, l'obsession de Claudia, ça semble aussi, donc cette jeune journaliste, de laisser des traces, ou en tout cas que Georges, cet éditorialiste brillant, laisse des traces et existe aussi au travers de ça. Alors, votre la scénographie qui est proposée dans le cadre de ce spectacle, c'est notamment des feuilles, justement, d'ouvrages imprimés qui sont sur cet ovale, et puis en même temps, cette manière d'avouer le livre dans son support presque matériel sur ces objets. Qu'est-ce qu'il en est par rapport justement au fait de laisser une trace qui semble être aussi quelque chose qui contamine peut-être les autres personnages?
Oui, c'est assez drôle parce qu'au théâtre, c'est impossible de laisser des traces. Donc on est dans un art totalement éphémère, et puis dans 15 jours, il n'existera plus rien de tout ça. Donc oui, mais même Georges, le personnage, il est tant, je veux dire, une des choses qui l'attire chez Claudia, c'est le fait que en l'aimant elle, il croit pouvoir se permettre de ne plus laisser des traces, parce que c'est une charge de laisser des traces, de devoir marquer son temps. Et puis il s'imagine qu'il pourrait être libéré de cette charge en aimant Claudia. Et puis bon. Il est déçu dans cette ambition-là, parce qu'elle insiste qu'elle ne va pas le permettre de ne pas laisser de traces.
Mais est-ce que, elle, sa vision de l'amour, c'est une vision... Parce qu'on l'a notamment interprétée comme une bimbo. Sybille Blanc est très loin de ce type d'interprétation. Et au contraire, c'est quelqu'un d'assez... disons...
Non, il n'y a pas de bimbo.
Non, justement, c'est quelqu'un d'assez, disons, comment dirais-je, qui a d'abord une axiomatique de l'intérêt que la société lui impose, puisqu'elle est visiblement, elle débute dans le journalisme, elle a besoin de faire ses premières griffes, ses premières marques aussi, et qu'en même temps, elle a besoin d'admirer peut-être ceux qu'elle rencontre, mais en même temps, elle n'est pas dupe, justement, de cette... elle fait preuve de ce pragmatisme que peut-être Georges appelle de ses voeux. D'une certaine manière, c'est-à-dire qu'en l'aimant lui, elle l'aime aussi parce qu'il lui sert.
Ah oui, non, mais elle est totalement ambitieuse. Et puis, elle est attirée, dans un premier temps, en tout cas, par le fait qu'elle peut lui servir de gravir l'échelle et se faire connaître parce que lui, il a 50 ans de métier et puis il a tout le réseau qu'il lui faut à elle pour avancer dans sa vie professionnelle. Et puis, c'est cette réalisation à la fin de la pièce qui en fait détruit le rapport aussi. C'est qu'elle se rend compte qu'elle a été attirée par l'ambition et non pas par l'amour.
Alors c'est une pièce comme celle de Pinter qui reste sur des points de suspension, par exemple, si on pense à la pièce qui a été montée récemment par Valentin Rossier au théâtre Le Poche. Je veux dire, on reste sur une parole en boucle. Chez Pinter, c'était les au revoir. Ici, c'est les c'est. Qu'est-ce qu'on en fait justement par rapport à ça? Parce que là, vous le faites face publique, quasiment en proscenium, j'entends, sur une avancée, etc. Vous, c'est ce moment de suspension où il y a presque une complicité entre ces deux personnages qui renaît, c'est-à-dire que lui rêve du temps d'avant.
Lui, il rêve du temps d'avant et puis...
D'avant la chute.
D'avant la chute et puis tout d'un coup, elle est resplendissante, elle a l'air d'être arrivée à commencer à se refaire une vie. Et elle a un avenir avant elle. Et puis lui, on n'est pas très sûr s'il a encore un avenir devant lui. Et puis pourquoi ils sont face publique? C'est simplement que on devine d'après le texte parce que le texte est hyper succinct. Et d'ailleurs cette dernière scène est d'une efficacité de mots mais incroyable. Je crois que la scène doit faire 20 répliques et même pas 40 mots. Et c'est un appel à l'imaginaire du spectateur, mais total. Et on imagine que le couple, l'ancien couple, est à la cérémonie de remise du diplôme de leur fille. Et puis c'est pour ça qu'ils sont comme s'ils étaient dans un public. Et puis ils se disent des choses tout en regardant la scène. Voilà.
Alors, dernière chose, je venais de lire Petits Arrangements, qui est un ouvrage de Claudine Gabarbet qui vient de paraître, enfin en ce mois de novembre. C'est l'histoire d'une femme, c'est je crois très autobiographique, qui a été donc délaissée par un homme. Elle le met dans une situation mythique, c'est-à-dire que la femme est à la fois Pénélope, l'homme Ulysse aussi. Mais en même temps, il y a quelque part, c'est ce qui revient peut-être dans cette pièce, c'est-à-dire que cette femme, Éléonore, dit en fait, mais pourquoi moi alors que j'ai tout fait, j'ai tout sacrifié, qu'au moment où j'allais peut-être quelque part, après 32 ans, en retirer un certain bénéfice, tout s'effondre, tout s'écroule. Qu'est-ce que j'ai fait, en fait? Est-ce que ça vous parle, je veux dire, à vous qui êtes peut-être au stade du midlife crisis, ou peut-être avant, peut-être après?
Pourquoi me dites-vous ça?
Non, mais est-ce que ça vous a ému par rapport à ça, quand même, enfin, visiblement, vis-à-vis de cette femme qui se met pas nécessairement en auto-accusation, qui tient tête d'ailleurs à cette journaliste, Claudia, donc qui refuse l'effondrement, mais qui en même temps demande quelque part, c'est presque une pièce enquête d'une certaine manière, une sorte de procès, pourquoi, et c'est ce que fera en écho peut-être Claudia en disant pourquoi est-ce que je crois l'amour est, enfin c'est une phrase un peu du 18e là, pourquoi est-ce que l'amour est partout à la primauté.
Moi je travaille par instinct, donc souvent j'arrive pas à dire même moi-même qu'est-ce qui me motive. Le premier moteur dont je suis toujours conscient, c'est que je suis toujours emballé par des pièces où je sens ou je sais que les acteurs trouveront du plaisir à jouer déjà. Si je fais du théâtre, c'est pour sentir le joie et la vibration d'un acteur qui est en train d'avoir du plaisir à nous raconter quelque chose ou vivre quelque chose. Et là, dans cette pièce, il y a quatre partitions absolument magnifiques. Et puis, on sent quatre acteur qui s'éclate à nous le raconter. Et c'est, pour moi, c'est ça le moteur de pourquoi je fais du théâtre et pourquoi j'ai choisi cette pièce, parce que c'est une pièce où il y a, de voir Monica Budé s'éclater comme Eleanor. Moi, chaque fois que je revois, je prends un pied à la voix.
Alors, juste une dernière chose, vous avez traduit avec Antoinette Monod, vous avez mis en scène également des textes de Steven Berkoff, Evans Lair, les monologues du vagin, également on peut citer Qu'est-ce qui cloche chez elle, par exemple, parmi d'autres. Qu'est-ce qui vous attire chez cette manière de traiter l'intime, que ça soit chez Berkoff, chez cette autrice australienne, ou chez Evans Lair, que vous ne trouvez peut-être pas chez les auteurs continentaux d'autres langues?
Oui, je sais pas. Je pense. Oui, je cherche, mais effectivement, en tout cas en français, des auteurs francophones, j'en trouve pas qui me branchent comme ça. Je cherche, continue à chercher. Je vais tomber dessus un jour, certainement. Mais non, je trouve que dans les pays anglo-saxons en ce moment, il y a une vigueur, il y a une vitalité d'écriture. Effectivement, qui dévoile les choses les plus intimes de l'inconscient et de la personnalité. Et puis, c'est un peu à l'envers du cliché, parce que souvent, parmi les théâtres, surtout francophones, on parle du théâtre anglophone comme étant superficiel et m'as-tu vu. Et au contraire, je trouve l'espèce d'intellectualisme qu'on trouve souvent dans l'écriture francophone vraiment inintéressant. Et puis, moi, j'ai besoin de vibrer avec des personnages dans une histoire. Et puis, c'est dans des textes comme ça que ça me l'a fait.
Alors, Ronald, c'est une pensée en action. Dernière chose, c'est vrai que c'est un blockbuster. J'entends, ça a été joué dans 50 pays, notamment énormément au Japon. Je crois que c'est l'auteur le plus joué anglo-saxon au Japon, hors Albi et Israël Horowitz. Par rapport à ça, juste un dernier élément. Qu'est-ce qui, pour vous, en fait, ferait vraiment la singularité de son écriture, vraiment, ce que vous avez ressenti par rapport aussi à ce que ça appelle du comédien, en fait?
Ben, moi, je crois que moi, j'ai jamais travaillé sur un texte aussi intelligent. Mm-hmm. Juste pour donner un exemple. Normalement, je fais pas de travail de table, ou bien ces deux jours, on explique les répliques qui nous font problème. Et puis là, on a passé 15 jours autour de la table. On avait besoin de creuser chaque phrase. Il y a on est toujours en train de découvrir des références internes qu'on n'avait pas soupçonnées. Mais c'est à la fois d'une complexité et d'une simplicité et d'une intelligence absolument époustouflante.
Alors juste une chose, les titres anglais sont parfois à plusieurs sens ou parfois il n'y a aucun sens. Qui a peur de Virginia Woolf, je pense qu'il y a eu autant d'exégèse que d'écrits sur cet auteur Edward Albee. Qu'est-ce qu'il en est avec ce titre Honor?
En anglais c'est un jeu de mots. Honor c'est le mot honneur, mais qui n'a pas la connotation moralisateur qu'il y a avec le mot honneur en français, donc c'est pour ça qu'on a maintenu le titre anglais. Et puis aussi, c'est également un prénom, et c'est le prénom du personnage en anglais, honneur, mais sans U. Donc, voilà la raison pour le titre. On a trouvé mieux de renommer le personnage Eleanor, elle est honneur. En français, mais parce que le prénom Honor est simplement difficile à dire et peu reconnaissable. Voilà.
Une ultime chose sur l'amour et la passion, est-ce qu'on peut imaginer qu'au bout de 32 ans, il y ait quand même une certaine, comme Georges le dit très bien, c'est-à-dire des rituels auxquels on correspond, on sait très bien ce que vont donner les dialogues, on peut même remplir les béances que l'autre laisse, enfin c'est peut-être ce qui sous-entend peut-être d'autres choses, donc c'est toute cette espèce de ritualisation, cette quotidienneté de la relation, est-ce que quand même 32 ans, c'est au départ c'est une situation presque, je dirais pas absurde, mais très tendue vers... j'entends, on sait très bien qu'il y a 60% des couples qui finissent en divorce, mais c'est les 5 premières années, si on suit Willy Pazini.
Je crois que vous seriez étonné. Il y a des couples qui tiennent des années et puis qui finissent par péter. Je veux dire, on ne sait pas pourquoi, mais alors, on verra. Non.